Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Michel Serres vient de publier Biogé en novembre 2010, un livre très original par sa forme, son écriture, son objet. Il est publié aux éditions Le Pommier et aux éditions Dialogue.fr. C'est à la fois un livre papier, un livre numérique et un livre au fichier MP3, trois formes en fait réunies en un seul objet à sa demande. Cela en fait un livre unique en son genre, à la pointe de la modernité ou à la croisée des chemins. Sur la couverture, pas de photo, mais un paragraphe en extrait avec son écriture régulière qui n'est autre que la première page du livre, des mots pour parure. Quand on a lu une fois Michel Serres, on reconnaît son style. Philosophe et écrivain d'abord, il nous offre avec Biogé un texte magnifique qui mêle le récit, la poésie et la réflexion. Sous ce titre énigmatique, les 200 pages de ce livre parlent du monde et de la vie en 5 chapitres que je vous cite. Mer et fleuve, terres et monts, trois volcans, vents et météores, faune et flore, rencontres et amours. Des mots et des thèmes chers à Michel Serres. Son amour des mots fait que le lecteur qui n'a ni le pied marin, ni la langue des marins, s'armera d'un bon dictionnaire pour s'ancrer dans Biogé et plonger dans le vivant des éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, guidé par sa plume, la musicalité de son écriture, pour entendre, écouter la langue de Biogé. Mais qu'est-ce donc que la Biogé, ou devrais-je dire qui est Biogé avec un B majuscule ? À la fin du livre, le lecteur qui en parlera ne dira peut-être plus la Biogé pour dire un peu de la terre et de notre monde, mais Biogé tout court, sans article, à la manière de Michel Serres quand il évoque un fleuve qui lui est cher, la Garonne, qu'il appelle Garonne, ce qu'il raconte entre autres dans ce livre, laissant aux étrangers de ses rives le soin de la dénommer la Garonne. Michel Serres, bonjour.
Bonjour.
Alors, commençons par la première question. Qu'est-ce que Biogé ?
Alors, Biogé, c'est très simple, c'est... Bio, ça veut dire la vie, et gé, ça veut dire la terre, comme dans géographie. Et par conséquent, biogé, c'est à la fois les vivants et les paysages de la planète, et l'environnement, comme on dit maintenant. Mais il y a un point de vue scientifique aussi derrière. C'est qu'en classe de 6e, aujourd'hui, les enfants apprennent ce qu'on appelle les SVT, sciences de la vie et de la terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est biogé ? C'est l'objet. Des SVT, c'est l'objet des sciences de la vie et de la terre. C'est-à-dire que les enfants, quand ils rentrent en 6e, on leur apprend un peu de géologie, un peu de botanique, un peu de zoologie, et puis on mélange tout ça, et ça fait, disons, les sciences de la vie et de la terre. Alors, biogé, je l'ai appelé, en effet, comme objet de ça, mais derrière ça, il y a en effet une personnification, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous savez, il n'y a pas que nous qui lisons Garonne. Puisque vous habitez Paris, je vous conseille d'aller à la Bibliothèque nationale. Et c'est la rue de Richelieu, je crois. Et au milieu de la rue de Richelieu, il y a un square qu'on appelle Louvois, le square Louvois. Vous le voyez peut-être,
oui. Voilà.
Et au milieu du square Louvois, il y a une fontaine. Et cette fontaine a été sculptée par un sculpteur. Et elle comprend 4 femmes quasi nues, et qui sont appelées la Saône, la Loire, la Seine et Garonne. C'est-à-dire, le sculpteur était au courant des habitudes locales. Il ne disait pas la Garonne. Et à Paris, il y a un témoignage qui date de peut-être un siècle et demi qu'on disait Garonne et non pas la Garonne. Alors je dis Biogé et non pas la Biogé. Vous avez raison de le dire.
Est-ce que Biogé est un vocable neuf ? Vous l'aviez déjà utilisé ? Vous en parlez déjà dans le livre Le Temps des Crises.
Temps des Crises.
C'est un mot que vous avez créé ?
Oui, c'est un mot que j'ai créé. Et c'est un mot que j'ai créé tout simplement parce que dans Temps des Crises, j'évoque à la fin, quand j'ai décrit toutes les crises, j'évoque à la fin ce que j'appellerai peut-être bientôt la nouvelle révolution industrielle. C'est-à-dire, je dis dans le temps des crises que la révolution industrielle que nous avons connue, c'était l'accrochage des techniques et des métiers aux sciences qu'on pourrait appeler mécaniques. Vous voyez ? Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on détache les métiers, les industries et les occupations et qu'on va les raccrocher aux sciences de la vie et de la terre. Et que demain, ça sera ça. nos nouveaux métiers, notre nouvelle industrie, etc., qui sera tout à fait différente de la technologie que nous avons aujourd'hui. Et alors, je fais cette prévision, et là, j'avais envie, évidemment, de mettre en scène la Biogé.
Le titre s'est donc imposé naturellement. Hein, enfin, je suppose, dans ce long récit, vous cherchez à nous faire entendre la voix des...
La
voix des éléments, la voix des vivants aussi.
Oui.
Du vivant. Et c'est un mot qu'on trouve un peu moins sous votre plume, d'ailleurs. Pourquoi ?
Parce que le mot vivant est un mot abstrait, d'une certaine manière. Parce que je préfère dire le rat, je préfère dire la maison.
Le vif.
Je préfère dire... Ou le vif, quelquefois. Oui. Le vif me paraît plus concret, vous voyez. Et les vivants que je fais parler, ou les vifs que je fais parler, ont des noms. C'est-à-dire, ce sont telle ou telle bête, telle ou telle... Par exemple, je parle beaucoup des arbres, vous l'avez remarqué à un moment.
Bien
mais
sûr.
Je dis le cèdre, je dis le chêne, je dis...
Tilleul.
Etc. Le tilleul, etc. Bon. Et d'ailleurs, j'évoque à un certain moment les métamorphoses au sens d'Ovid, par exemple. Et vous savez que le chêne et le tilleul, c'est Philémon et Baucis, c'est-à-dire une femme et un homme qui s'aimaient tellement qu'ils ont obtenu de Jupiter d'être transformés en deux arbres et ils continuent avec la brise de se caresser les branches alors qu'ils ont beaucoup plus de 100 ans. Voilà.
Puisque vous évoquez là les métamorphoses d'Ovid et puis ces références à l'Antiquité, c'est justement un des grands plaisirs du lecteur, c'est d'être continuellement dans un mouvement de balancier entre la mythologie, l'histoire des sciences qui vous sont chères, etc. Et puis Biogé d'aujourd'hui, dans notre conception actuelle. C'est votre...
C'est votre
pensée, comme oui. ça aussi. C'est quelque chose qui est encore plus amplifié là, parce qu'on est porté par vraiment votre écriture.
Ce que j'ai voulu, c'est ce que vous avez dit vous-même, c'est-à-dire de mélanger réellement la réflexion, la poésie, si vous voulez, ou le récit, ou le conte, si vous voulez. Mais je crois que ce n'est pas réellement une invention. Ce n'est pas réellement une nouveauté. Ce n'est pas réellement une révolution. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être ça le plus constant des styles des auteurs de langue française. On a parlé de Montaigne, je crois, un jour. Ben Montaigne, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il réfléchit, mais il raconte des histoires sans arrêt. Regardez ce que fait Pascal dans Les Pensées. Si on y pense réellement, il raconte sans arrêt de petites historiettes, n'est-ce pas ? Leibniz, dans sa Théodicée, il ne fait que raconter des histoires, en français aussi, bien sûr. Mais et les philosophes du 18e, qu'est-ce qu'ils font ? Diderot, Voltaire, etc. Ils racontent sans arrêt des histoires. Et par conséquent, je ne crois pas avoir été original. Voilà, ça apparaît comme ça, comme une forme originale.
On le redécouvre.
Mais c'est plutôt la plus vieille tradition de langue française.
Ça, voilà. Ça correspond à une...
Le philosophe de langue allemande est un prof universitaire abstrait qui fait des thèses. Et on croit aujourd'hui qu'être philosophe, c'est faire une thèse. Mais c'est le contraire. Vous voyez, la philosophie, ce n'est pas un paquet de fiches. Ce n'est pas des notes en bas de page. La philosophie, elle est vive, comme vous disiez tout à l'heure.
Donc, ça correspond à la lignée de la
oui.
philosophie française
oui.
et, j'allais dire, d'un courant de la philosophie qui...
De langue française. Il n'y a pas de doute. Oui.
C'est la particularité. Tout de même, donner la parole aux éléments, ça, c'est l'originalité quand même de Biogé.
Voilà, c'est mon originalité. Alors,
et votre ambition, là.
Oui, c'est mon ambition et elle est vieille. C'est-à-dire, il y a 20 ans, lorsque j'ai publié Le Contrat naturel, qui est un livre relativement ancien, qui a été follement critiqué et très violemment
attaqué.
Critiqué, bien sûr, consistait à dire, dans l'Antiquité, qui était sujet de droit ? Les mâles de 40 ans. Mais à l'exclusion des femmes, des vieillards, des enfants, des étrangers, des esclaves, etc. Et au fur et à mesure que le temps avance vers la contemporanéité, tout le monde devient sujet de droit. Tout le monde. Ah oui, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non, non. Les vivants sont exclus de ce droit-là. La terre est exclue de ce droit-là. Et ce que je voulais dans le contrat naturel, c'est qu'il n'y ait pas que les hommes qui deviennent sujets de droit. Et donc, je poussais dans le sens, mais pourquoi les animaux, pourquoi les arbres, pourquoi ne seraient pas des sujets à ce point de vue ? Et il se trouve, cher ami, que précisément les sciences de la vie et de la terre nous amènent à penser ça. C'est-à-dire que nous comprenons de mieux en mieux le langage des baleines, nous comprenons de mieux en mieux les institutions sociales des chimpanzés, des bonobos, nous comprenons de mieux en mieux les signaux que s'envoient les mésanges, les colibris, etc., les inventions mélodiques qu'ils font. On rentre dans le fait que les vivants, les choses de la terre, s'envoient des messages, traitent de l'information, comme nous. Pourquoi cette séparation considérable entre le sujet et l'objet que a consacré la philosophie traditionnelle, pourquoi garder cette séparation ? Et c'est là que j'étais de tenter, alors tout le monde me traite d'animiste, et pourquoi pas, et bien voilà. Mais même aujourd'hui, j'y pense comme ça en passant, aujourd'hui, où nous avons assisté à cette abominable chose qu'a été les déchets de pétrole dans le golfe du Mexique fait par BP, qui aujourd'hui va attaquer BP ? Personne n'en parle plus, n'est-ce pas ? Et pourtant, les dommages sont considérables. Mais moi, j'espérerais qu'il y ait un procès où le golfe du Mexique porterait plainte lui-même, le golfe, comme tel, comme sujet de droit, contre BP. Vous voyez ? Je voudrais très bien un procès golfe du Mexique contre BP. Vous voyez ?
Donc il y a tout ce cheminement entre le contrat naturel
et
le malpropre, voilà. Biogé, le temps des crises aussi, parce que le temps des crises se lit bien avec Biogé.
Oui, bien
c'est vraiment la suite.
Tout à fait la suite.
Donc la Biogé, ce que vous nous dites, c'est qu'elle peut et qu'elle doit être traitée comme un sujet.
Comme un sujet. Oui.
Un sujet émetteur de sens,
oui,
et presque une victime.
Voilà.
Alors, c'est ça que vous étiez en train de dire.
Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que le fait qu'il soit victime nous mène peu à peu vers cette idée qu'il pourrait être considéré comme sujet. Voilà.
Alors, à la page 113 de Biogé, justement, vous dites « alerte ». Hein, c'est quand même fort, là. « Nous ne pouvons plus nous résoudre à cette guerre de tous contre tous, au bout du compte fatal à la Biogé tout entière et à nous. En conséquence, paix, un nouvel Éden émergerait-il si nous convenions d'un contrat naturel ? Lequel, rédigé en quelle langue ? Alors, c'est tout votre livre.
C'est toute la question.
Toute la question.
Alors, évidemment, dans l'effort pour que d'autres que nous deviennent des sujets ou des sujets de droit, en effet, l'audace était d'essayer de donner la parole comme ça. Alors, c'est là qu'intervient le récit, forcément. Et quand j'étais plus jeune, que j'étais à Nippokagne, c'était des temps vraiment néolithiques, j'avais été vraiment frappé, tout à fait bouleversé, par une fête des Romains. Les Romains, trois fois dans l'année, fêtaient la terre et ils l'appelaient Mundus Patet, c'est-à-dire la terre baille, la terre B. Vous savez comment on dit B au Corneille.
Grâce à vous, j'ai cherché ce que signifiait B.
B, voilà, c'est ça, B, n'est-ce pas ? Ça devait être tout simplement lié au fait que l'Italie est une zone sismique, où il y a des failles, vous voyez, où la terre a... Moi, je vis, par exemple, depuis 35 ans, sur la faille de Sant'Andrea, et avec les conséquences sismiques...
Et vous avez senti, ressenti...
Oui, j'ai assisté à des grands tremblements de terre à cause de ça. Ou si vous allez en Islande, il y a comme ça... La terre B, là, vous voyez. Et alors là, emporté par le récit, j'ai dit, mais j'ai vu la terre, j'ai vu quelque chose émaner de cette béance, quelquefois, parce que j'ai été moi-même alpiniste, et un jour, je devais franchir une rimaille. Vous savez ce que c'est que la rimaille ? C'est la crevasse qui se passe entre la paroi rocheuse et la naissance du glacier. Ce sont des crevasses quelquefois gigantesquement profondes qui peuvent atteindre 1000 mètres de profondeur. C'est extraordinaire, une rimaille. Voilà. Et on passait avec ma cordée, on descendait d'une course assez exigeante, et un de nous trois est tombé dans la rimaille. C'est un accident terrible, etc. Et alors on a fait tout ce qu'on a pu, évidemment, pour la retrouver. C'était une femme, notre seconde de cordée, et on s'est approché de la rimaille pour la sauver. On a entendu des voix, on a envoyé une corde, et au lieu de sortir une femme, est sorti un homme. Je vous rappelle de cette affaire. C'est une histoire qui m'est réellement arrivée. Alors, effectivement, prêt à s'évanouir, vous voyez, que de la terre sorte quelque chose qu'on n'attendait pas, vous voyez. Et quelle est la probabilité pour qu'une personne tombe dans la crevasse au même endroit que notre tombe, et qui, parce qu'il était en solitaire, il n'aurait jamais été sauvé sans ça. Et là, il y a une sorte de jaillissement de la terre, de quelque chose d'inattendu qui nous avait évidemment tout à fait bouleversés. Voilà le récit.
Très réconfortant pour
nous. Très réconfortant, oui. On avait sauvé quelqu'un, là, il n'y a pas de doute.
Votre œuvre, c'est une de vos amies, le philosophe Christiane Frémont dit que c'est une œuvre qui est à la fois inventaire et invention. Et si j'ai bien compris, vos personnages conceptuels forment aussi votre œuvre.
Oui,
et
oui.
Vous, Michel Serres, la conception du monde que vous proposez repose sur l'utilisation de ces personnages conceptuels,
oui,
tout au long de votre œuvre.
Tout au long.
Alors, on a entendu parler d'Hermès, du parasite,
sûr, parasite, oui,
le malpropre,
oui.
Bon, bref, le taiseux, là,
oui,
que les lecteurs découvriront.
Oui. L'hermaphrodite.
Qui nous a réunis, oui, une première fois dans une émission.
Les anges,
voilà.
Oui, bien sûr.
Alors,
il y a beaucoup de personnages.
Voilà, alors là, il y a à nouveau un,
oui,
personnage concept,
oui,
qui est Biogé.
Biogé, oui.
Alors, j'aimerais que vous reveniez un peu pour nos auditeurs, d'abord,
oui,
sur cette façon d'écrire. Parlait de Montaigne,
ah, oui,
tout à l'heure, qui parlait avec des images.
Oui,
vous,
oui,
parlez avec
des personnages.
Des personnages.
Oui. Je crois que c'est, si vous voulez, le résultat de la conjonction que j'essaie de faire et qui est traditionnelle dans la philosophie de langue française entre la réflexion et le récit. Et au lieu d'avoir des concepts, c'est-à-dire au lieu d'avoir des concepts abstraits, Deleuze disait par exemple que qu'est-ce qu'un philosophe ? C'est celui qui crée des concepts. Moi, je bifurque un peu par rapport à ça. Je veux bien créer des concepts, mais je crois que le personnage conceptuel est encore plus important parce qu'il porte en lui non seulement le sens en question ou l'ensemble de la profondeur du concept, mais il porte en lui aussi une sorte de vie presque indépendante. Hermès, il va chercher fortune dans le monde, vous voyez ? Les anges aussi, etc. Et d'une certaine manière, lorsqu'ils sortent de mon travail, eh bien, ils m'échappent. Et parce qu'ils m'échappent, eh bien, la création est quand même plus complète, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de le rattraper avec beaucoup de difficultés, vous voyez ? Comme s'il vivait sa vie propre. Et au fond, la création, c'est ça, c'est laisser libre le concept qu'on fait sortir.
Ça, c'est le sel de votre pensée, quoi.
Voilà, enfin, c'est ça. C'est vraiment une sorte de... Voyons, les idées, elles sont faites pour sortir, pour aller, pour partir, pour... Voilà,
pour que les autres se les approprient.
Voilà, vivre d'elles-mêmes.
Voilà. Est-ce que ce concept de Biogé, enfin ce personnage conceptuel, je ne sais pas très bien comment dire, oui. Personnage concept, est-ce que c'est le, ben justement le concept global, celui qui arrive un peu en apothéose par rapport à tous les autres que vous avez proposés, amenés?
C'est peut-être le concept...
Celui-là, il est englobant. Enfin, je sais
le
pas
plus
dire.
Important d'aujourd'hui, moi, il me semble. C'est-à-dire qu'il est global et d'autre part, il a toutes les caractéristiques de la vision du monde d'aujourd'hui. Voilà, la Terre, vous savez, elle a 4 milliards d'années. La vie, elle a 3 milliards 800 millions d'années. Alors faites attention, ce personnage-là, il est beaucoup plus vieux que nous. Et il nous englobe. Et nous faisons partie de lui, nous participons à lui. Nous sommes des sortes d'éléments à l'intérieur de lui, vous voyez. C'est pour ça que je n'aime pas le mot « environnement ». Le mot « environnement », ça suppose que l'homme est au centre et que l'environnement est tout autour. Et que lui, bien sûr, il est au centre. Non, non. Non, non, nous faisons partie de la biogé comme ça, comme n'importe quel autre vivant.
Alors, à propos de la biogé, justement, avec ce 50 et quelques livres que vous écrivez...
Oui, 55, je crois.
55, bon, ouais.
J'ai compté.
Vous avez compté. J'avais mal compté, 52 et je n'osais pas le dire. Qu'est-ce que vous avez voulu traduire cette fois du monde? Une langue.
Mais... Une nouvelle manière de voir le monde, un nouvel être au monde. Vous savez ce que les philosophes appellent l'être au monde ? Eh bien, il me semblait toujours que quand ils parlaient de l'être au monde, ils ne savaient pas ce que c'était que le monde. C'est-à-dire, d'une certaine manière, nos prédécesseurs étaient presque toujours orientés vers les sciences humaines. Et les philosophes, à la fois mes contemporains et mes prédécesseurs, étaient tout à fait avertis de sociologie, de politique, ils étaient avertis de psychologie, ils étaient avertis de l'homme. Et bien entendu, c'est tout à fait honorable. Mais cette espèce de souci, d'ailleurs tout à fait justifié, d'être réellement au courant des sciences humaines, était une sorte de fermeture qui les empêchait de voir le monde. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, le monde revient. Vous voyez, et c'est pas commode d'ailleurs de le voir revenir. Il revient pas de façon autrement que dramatique, vous voyez, à la fois comme victime et comme menaçant, vous voyez. Et donc là, il y a une sorte d'alerte que la philosophie doit assumer. Et oui, j'appellerais ça un retour aux choses mêmes, voyez, retour à la vie, retour au monde lui-même. Il ne faut pas mésestimer ce que je dis dans le premier chapitre de Temps des crises, que nous étions 70% d'agriculteurs il y a 100 ans et qu'aujourd'hui nous sommes 1,1%. Et cette espèce d'effondrement de la population agraire, si vous voulez, a correspondu avec l'évolution de la philosophie vers les sciences humaines en disant tout est politique et rien ne peut être que politique. Eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est-à-dire, ils avaient oublié le monde. La preuve, c'est que Sartre vomit sur la première branche qu'il rencontre. Vous voyez, la première racine qu'il rencontre. Vous voyez à quel point il n'aime pas le monde, ni les vivants. Voilà.
Dans Biogé, justement, on trouve au fameux « je pense, donc je suis » de Descartes. Oui. Vous dites « je pense, donc je me jette dans un autre ». Pourriez-vous développer un peu ce point ?
Ben, c'est-à-dire que la pensée est difficilement sans objet. Le retour de la pensée vers soi-même est tout à fait honorable. Mais lorsque je pense ce que je pense, c'est-à-dire l'objet lui-même, ou la personne, ou l'autre. D'ailleurs, c'est toujours une sorte de lancement vers l'altérité.
Qu'on retrouve alors là aussi, tout le long du livre.
Oui, bien sûr.
Vous conviez vos lecteurs à un tour du monde.
Oui, oui,
en quelque façon.
Oui, on voyage beaucoup dans mon livre. Hein. Oui.
On voyage et puis on prend conscience de notre monde à travers vos yeux de philosophe.
Oui, hein. C'est ça. La conception est très simple, je crois. Vous disiez que Christiane Frémont disait invention et inventaire.
Oui.
Bien, l'inventaire, c'est très simple. Un philosophe doit s'appuyer sur une base, n'est-ce pas, une base de connaissances. Et cette base, elle est triple, tout simplement. Elle consiste à avoir comme base, voyons, il faudrait que je connaisse tout le monde, que je connaisse tous les savoirs, que je connaisse tous les hommes. C'est ça le triple voyage. Évidemment, c'est impossible. On ne peut pas connaître tout le monde, tous les savoirs et tous les hommes. Mais il faut faire le plus possible ces voyages-là. Donc, dans tous mes livres, vous aurez un voyage toujours, aussi bien le voyage spatial que le voyage épistémologique des sciences ou le voyage humain. Voilà.
Encyclopédique,
voilà,
l'expérience.
C'est l'encyclopédie,
aussi.
Mais ça, tout, ça aussi, ça, c'est la tradition.
C'est la tradition, c'est la fonction de la philosophie.
Platon a fait ça, Aristote a fait ça, Hegel a fait ça, etc.
Le philosophe d'aujourd'hui peut-il répondre à ce tour de force, justement, au regard de la complexité des sciences d'aujourd'hui, du cloisonnement des savoirs que vous avez dénoncé, hein,
oui,
dans le temps des crises,
et puis bien sûr, dans le tiers instruit,
et puis même aussi encore dans Biogé. Ça paraît titanesque, impossible.
Mais alors, c'est impossible, on va essayer de le faire. Oui. J'ai un ami qui disait, si c'est possible, c'est déjà fait. Si c'est impossible, on va essayer de le faire. Voilà. C'est la croix de la philosophie, tout simplement. C'est la difficulté fondamentale de notre métier. Mais que je sache, ça a toujours été aussi difficile. Et Platon l'a essayé de le faire, et Aristote a essayé de le faire. Et le XVIIIe siècle, le siècle de l'encyclopédie, Diderot et d'Alembert ont essayé de le faire. Voilà, et bien, c'est notre métier à nous. Alors qu'il soit impossible, et oui, c'est vrai, c'est impossible, mais allons-y, travaillons, il faut se lever de bonne heure, voilà.
Alors, dans votre récit, on disait au début de l'entretien que ça mêlait à la fois de la poésie, des touches autobiographiques qui sont vraiment délicatement posées au moment du récit. Elles sont comme des bribes. Et effectivement, vous faites parler les éléments, que ce soit Garonne, puisqu'on a parlé, les volcans.
Les volcans.
Et finalement, on se demande un peu qui parle.
Ah oui.
Parce que vous utilisez le jeu. Alors, ce n'est pas du tout gênant hein, pour le lecteur. Mmh. J'ai adoré. J'étais pas du tout perdu. Mais vraiment, on rentre dans le.
C'est-à-dire, celui qui parle le jeu n'est finalement qu'un élément dans la totalité des gens qui parlent. Vous voyez, c'est-à-dire. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la partie où je traite du volcan, précisément,
où
il est question de quel type de volcan. Voyons, quel type de volcan. Il y a l'Etna en Sicile, bien sûr, mais pendant ce temps, les autres savants qui étaient autour, là, quelle que soit l'époque, ils ont créé, eux, des volcans, puis ils ont créé la bombe atomique, ils ont créé les miroirs ardents d'Archimède, etc. Alors, là qu'est-ce qui parle, là, quel est ce feu-là? Vous voyez, voilà.
Trois savants, vous avez l'audace de mélanger,
voilà.
On va dire ça comme ça, mais de réunir.
De réunir
dans un
endroit donné, la Sicile, qui est une sorte de microcosme, des savants d'aujourd'hui, des savants
de l'Antiquité,
etc.
Archimède et
Empédocle. Tout ça réuni autour de. Mais qu'est-ce que c'est ce feu dont je ne sais pas réellement si c'est nous qui le créons ou si c'est la nature elle-même. Le jeu ou le travail là, c'était de faire fusionner à la fois notre fabrication et la fabrication de la nature. Et vous voyez comment ça fonctionne. C'est-à-dire, à un certain moment, on ne sait plus très bien si cette sorte de bûcher là extraordinaire a été fait par nous ou par la nature. Et c'est ça le but. C'est-à-dire, le volcan dit à peu près ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'au fond, la bombe thermonucléaire, c'est un volcan dont nous sommes responsables.
Je vous ai entendu lire ce chapitre à Saint-Émilion devant une foule médusée, bouche bée. Non, mais c'est vrai. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a eu peut-être 2000 personnes, mais qui effectivement étaient suspendues à vos paroles.
Ça, c'est
paroles,
une partie de
parce que
Biogé,
c'est une partie de Biogé, c'est ce chapitre que vous venez d'évoquer. Et ce qui vous intéresse, c'est dans l'histoire de ces savants, ce n'est pas seulement que leur histoire, que leur vie, c'est le moment de leur invention.
Et oui, c'est ça.
Et des conséquences.
Et oui. Je raconte l'histoire d'Archimède, qui est probablement une des plus belles, parce que, au fond, quand il sort tout nu de sa baignoire en criant Eureka dans les rues de Syracuse, c'est quand même un moment extraordinaire de l'invention scientifique, où le type saute en l'air de joie, tout nu, et il s'aperçoit même pas qu'il est nu dans la ville, etc. Et voilà que la joie séraphique de la trouvaille se transforme tout d'un coup dans la torche de feu qu'il projette sur les matelots dans la rade de Syracuse. C'est-à-dire que l'extraordinaire bonheur du savoir se transforme tout d'un coup dans cette tragédie abominable, atroce, de tuer des gens, comme nous l'avons fait avec la bombe atomique. Oui.
Ah, vous dites oui. Dans ce Biogé que vous êtes enfant d'Hiroshima. C'est ça, très oui, joli ça. cette oui. phrase-là. Enfant d'Hiroshima, je l'ai plus sous les yeux, fils d'Ettore Majorana, héritier de la bombe atomique. Enfin, je ne sais plus comment
oui, bien
c'est
sûr.
Exactement ça.
Pour moi, ça a été un moment terrible de ma vie, c'est-à-dire j'étais scientifique. Et au moment d'Hiroshima, je me suis aperçu, si vous voulez, que nous avions appris toute notre vie que la science était toute bonne et seule bonne, puisqu'elle nous permettait le progrès et le confort. Et la guérison des maladies, et que tout d'un coup, elle s'adonnait à ce type de tragédie. Voyez. Et c'est là où je me suis aperçu que je devais faire de la philosophie. Et un des premiers articles a été pour fonder ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique des sciences. Ça a commencé, évidemment, par le problème de conscience que posait Hiroshima, évidemment. Et j'ai connu, vous le savez, à cette époque, des physiciens atomiques qui ont quitté la physique pour faire de la biologie. Et les progrès de la biochimie, en grande partie, sont dus à ces physiciens qui ont changé de science et qui ont changé de science pour des raisons de conscience. Mais de conscience. Et quand même, c'est le grand théoricien de la biochimie, c'est quand même Schrödinger, qui était physicien et qui a écrit « What's life ?» à la fin de sa vie. Qu'est-ce que la vie ? Et qui a le premier dit que la vie était un cristal apériodique, c'est-à-dire qu'il a vu comme ça, à 20 ans près, ce que deviendrait l'ADN. C'était extraordinaire. Et là, il y a eu des problèmes de conscience vraiment dans la génération. Alors, juste avant moi, la génération d'avant moi, parce que moi j'avais évidemment 14 à 20 ans à ce moment-là, mais eux avaient évidemment entre 40 et 50 ans, et c'est la génération de Majorana.
Alors que ce héros, en fait...
C'est le héros de mon enfance.
De votre enfance.
Oui, c'est
moi,
ça.
C'est la première fois que je voyais son
T'as
nom.
T'as entendu parler,
je
évidemment.
Je vous remercie, parce que je ne dois pas être la seule. C'est un héros dont le destin fait pleurer.
Oui, c'est ça.
Que vous, vous sauvez.
C'est ça,
vous qui sauvez le héros.
Qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est quand même un roman policier extraordinaire.
Quand avez-vous entendu pour la première fois son nom ?
Assez tard, finalement, parce que moi-même, j'ai eu ce problème-là à propos de Hiroshima, et puisque j'ai bifurqué, j'ai fait de la philosophie après avoir fait des sciences. Mais j'ai entendu quand même parler de Majorana assez vite, dans les années 55-60, etc. 55-60, tout simplement parce qu'un physicien italien a inventé, dans une corne de la Sicile, de faire un institut qui s'appellerait Majorana. Et j'avais fait des conférences là, dans cet institut, et là, il y avait tous les souvenirs d'Ettore Majorana.
Il n'y a pas de jugement moral dans Biogé ?
Non, mais je ne fais jamais de jugement moral, non. Je ne juge jamais.
C'est un chant d'amour à la vie ?
Oui. Je ne vends pas d'angoisse.
Oui, c'est vrai. C'est
l'angoisse, c'est quelque chose qu'on vend et qui se vend très, très bien.
Bon, j'espère que vous serez autant entendu que...
Non,
que...
beaucoup moins.
Mais bon, espérons-le.
Beaucoup moins.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un conte philosophique sans morale ?
Oui, c'est un conte philosophique.
Parce que vous êtes... Je ne sais pas comment moi le qualifier. Moi,
la morale, c'est difficile de faire la morale. D'ailleurs, c'est une des raisons, c'est une bonne question que vous me posez, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé instinctivement au récit. Voici pourquoi. Si vous faites de la morale, vous finissez par donner des leçons. Vous dites, il faut faire ça, il faut... Comment réussir sa vie ? Ben faites ça. Bon. Oui, mais qui vous êtes, vous, pour dire ça ? Hein ? Je ne suis pas un parangon de vertu, bien sûr. Et par conséquent, comment penser la morale ou comment la mettre en... Eh bien, il n'y a qu'à répondre en disant, mais Archimède faisait comme ça. Ah, l'Hermaphrodite fait comme ça. Le tiers instruit fait comme ça. Alors, vous vous déchargez vous-même sur un récit, et le récit, eh bien, il raconte. Voilà, c'est ça. Au fond, mes livres de morale n'ont jamais été que des livres de récits. Voilà, tout simplement. Pour échapper, effectivement, à cette double circularité de ce cercle vicieux, qui sommes-nous pour donner la morale à quiconque ? Voilà.
Alors, il y a chez vous, disent vos amis, une pensée joyeuse. Et pour vous, la matière de la biologie, c'est la joie.
Oui, c'est mon dernier chapitre, en effet.
C'est évidemment...
Je suis un homme de joie, comme on dit, fille de joie. Exactement.
Alors, c'est tout le dernier chapitre, sur les derniers mots du chapitre. C'est un
hymne à la joie.
Voilà, un hymne à la joie. Je crois qu'il faut inviter nos lecteurs à le lire plutôt que d'en parler. Qu'est-ce que c'est pour vous la joie, Michel Serres ?
Soyons concrets, comme on dit chez Montaigne. La joie, c'est très simple. C'est une dilatation. Et c'est vraiment une description de type physique ou mécanique. Lorsque vous êtes critique, lorsque vous jugez, vous vous rétrécissez. Évidemment, c'est quelquefois bénéfique parce que votre pensée devient un peu plus pointue, quelquefois plus aiguë. Mais vous devenez tout petit, tout étroit, tout étroit. Et la haine, c'est ça, c'est cette espèce d'étroitesse que prend la conscience, que prend le jugement, que prend la pensée, que prend le thorax. n'est-ce pas ? Tandis que la joie, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire tout d'un coup, votre poitrine devient très large, vos épaules deviennent très larges, enfin je le dis au point de vue physique, mais c'est ça, une sorte de dilatation. L'enthousiasme, c'est ça, c'est la dilatation. La joie, c'est ça, moi je dirais ça. Au fond, la dilatation.
Les Cahiers de Lerne vous ont consacré tout un numéro.
C'est ça.
À l'automne dernier, un cahier entier, dans lequel il y a à la fois des textes de vous,
des, inédits,
des témoignages, des inédits, bien sûr, plusieurs. Des témoignages de vos amis, de philosophes.
Enfin, ou des gens que je ne connais pas d'ailleurs.
Que vous ne connaissez pas.
Bien sûr.
Et puis à la fin, il y a quelque chose d'amusant, puisqu'on parlait de Biogé. Vous avez écrit comme votre curriculum vitae, de façon amusante, où justement la Biogé parle. Quoi.
Oui.
Enfin, vous a parlé.
Vous a parlé. Oui, j'ai même appelé ça, je crois, le petit char de ma vie.
Voilà, c'est ça.
C'est la traduction simplement littérale du curriculum vitae.
Ah, mais,
le curriculum, c'est ça, c'est un petit char.
Oui.
Alors, on m'a demandé évidemment de faire ma
mot qu'on avait tous oublié.
De curriculum vitae, ma vie. Je ne pouvais pas prendre ça très au sérieux. Alors, j'ai mis des choses qui m'ont vraiment importé dans ma vie. Et j'en ai mis 5 qui m'ont vraiment importé. Voilà. La première, c'est que quand je suis rentré à l'école normale, mais je ne dis pas d'ailleurs que je suis rentré à l'école normale.
Non, c'est très bien fait.
Mais à cette époque-là, j'ai rencontré les mathématiques modernes. Et j'étais un mathématicien classique. Et donc, tout d'un coup, j'ai dû changer de langue. Vous vous rendez compte, changer de mathématiques. J'ai changé. Quelques années après, je me suis aperçu qu'il y avait une autre physique, c'était la théorie de l'information. J'ai dû changer de nouveau de langue. Ensuite, un petit vieux monsieur, que je pensais vieux à l'époque, avait suivi mon cours pendant, je ne sais pas moi, un mois ou un mois et demi. Et à la fin des cours, il est venu me voir en me disant... « Bonjour monsieur, je vous ai choisi comme philosophe et j'ai un petit livre à travailler. Je viens de commettre un petit livre. » Alors je me suis dit, encore un fâcheux qui arrive. « Ah, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Jacques Monod. » J'ai cru tomber dans les pommes et il me présentait « Le hasard et la nécessité » qui a été le grand livre de cette époque. Et il m'a demandé de le corriger. J'ai donc corrigé le hasard. Et là, alors que j'étais formé à une biologie classique, j'ai découvert la biochimie grâce à mon ami, quelqu'un qui est devenu mon ami. Et qui s'appelait Jacques Monod. Vous voyez, chaque fois dans mon parcours, j'ai été soumis à des changements brutaux qui étaient des changements de science. Vous voyez, pas la même mathématique, pas la même physique, pas la même biologie, etc. Et ensuite, je suis arrivé à la Silicon Valley au moment même où ça a démarré. Et donc, j'ai vu l'arrivée, si vous voulez, de l'informatique, des problèmes, etc. Et donc, j'ai vécu toute ma vie dans des changements perpétuels de ce genre. Et c'est ça qui a sans doute été décisif dans le petit char de ma vie, vous voyez. De voir comment les choses pouvaient changer avec une sorte d'imprévisibilité soudaine, vous voyez, que tout d'un coup arrivait une autre science, une autre manière de parler, etc. C'est fou ce que ça peut rajeunir.
Merci Michel Serres.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes un des philosophes de France les plus connus, bien entendu, que vous venez de nous parler de votre dernier livre, Biogé. Votre voix a porté depuis longtemps au-delà du cercle des philosophes. Et c'est une voix aux accents chantants du Sud-Ouest que j'invite nos auditeurs à retrouver au plus vite. D'abord en lisant votre livre aux éditions Le Pommier. Et puis parce qu'ils en auront la musique en tête au fil de leur lecture. Et parce qu'ils peuvent aussi l'écouter sur leur iPod, leur téléphone,
sur
leur ordinateur. Que c'est un très beau texte, à la hauteur de la beauté du monde, où l'émotion affleure au fil des pages. Pour ceux qui accrocheront, c'est un texte qui donne envie d'être relu. Merci, monsieur.
Merci beaucoup.